Le temps des chouquettes, votre rodéo littéraire, une émission présentée par Lucas Beria, un mardi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
Chères chouquettes du monde entier, peut-on se rencontrer sans parole? C'est l'expérience que tente le narrateur du premier roman de Ruslan Ordyenko au fil de rendez-vous glanés sur Tinder. Viens, on va dans un café, on s'installe à une table et on ne prononce aucun mot. On se dévisage, on s'exprime avec nos gestes, nos regards, nos sourires. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps, si on le veut, bien sûr, que l'on s'adresse la première parole ou que l'on se quitte sans connaître la voix de l'autre. C'est par ce message affiché sur son profil que le narrateur convie ses partenaires d'un jour à se rencontrer pour la première fois. Au fil d'une dizaine de rendez-vous, nous voici embarqués avec lui dans les méandres des relations sentimentales contemporaines. Un narrateur pour qui l'enchaînement de rencontres, au-delà d'une fuite en avant, revêt rapidement la forme d'une introspection sur le désir et d'une quête impossible, celle d'un silence retrouvé. Enfin, silence, c'est donc sous ce titre, en forme d'aveu comme de prière, que Ruslan Ordyenko dévoile son premier roman, et avec lui une réflexion sur le langage, autant qu'un miroir cru tendu à nos émois contemporains. Alors comment et pourquoi refaire du silence un horizon désirable? Élément de réponse en compagnie d'un jeune écrivain intranquille. Ne prenez que vos oreilles, c'est le temps des chouquettes. Bonjour Ruslan.
Bonjour Lucas.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravi de te recevoir, comme tu es un jeune auteur et primo-romancier. Alors Ruslan, je voulais commencer à t'interroger en citant un passage qui est dans les premières pages de ton roman, Enfin silence, quand le narrateur, qui est tout juste sorti d'une énième déception amoureuse, écrit ceci. Jusqu'alors, je vivais dans un déni que seuls les mots ont su briser. Je cherche à mieux saisir ce qui se dit sans eux, la manière dont je perçois le silence et dont je l'interprète. Et moi, la première chose qui m'a surprise quand j'ai découvert ton livre, c'est de me dire que c'était assez audacieux pour un premier livre et pour un écrivain de décider d'écrire sur le silence et donc d'écrire sur l'absence de mots et de paroles. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment elle est née, cette envie d'écrire sur le silence?
C'est une aventure assez hasardeuse, j'oserais dire, puisque, oui, comme je le dis... Dans le tout premier chapitre, qui est plutôt une sorte de préface même, j'ai envie de comprendre est-ce que je suis aussi aveugle, puisque cette déception amoureuse, elle vient du fait que j'étais persuadé que l'amour pouvait exister entre nous, entre les personnes que j'aimais et moi. Et on ne se l'était jamais dit, on n'avait jamais abordé quelconque sujet sur l'amour. En revanche, on passait beaucoup de temps ensemble, je dirais pas 24 heures sur 24, mais il y avait une proximité assez, assez grande, en tout cas de mon ressenti. Jusqu'à ce que du coup la parole arrive, que je fasse un aveu, que je reçoive un non-aveu, un aveu qui dit tout l'inverse. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, mais comment ça se passe? Quel est mon rapport, pas forcément au silence, mais à l'interprétation du silence, je dirais. Et donc, à ce moment-là, je n'étais pas du tout écrivain, je n'avais pas de formation d'écriture. Je l'ai eu par la suite. Mais donc, je faisais l'expérience tout bêtement pour moi-même. Et à force de la faire, j'étais déjà... J'étais comédien, donc j'ai vu une sorte de potentiel, entre guillemets, artistique qu'on pouvait saisir. Et donc, j'ai commencé à m'interroger, au-delà juste de cette expérience pour moi-même, qu'est-ce qu'il m'apporte, mais sur les rencontres en elles-mêmes, sur nos habitudes amoureuses, sur notre manière d'utiliser Tinder, sur cette machine qui est devenue les applis de rencontre avec les algorithmes. Et on swipe, c'est vraiment une consommation de rencontre à la limite. Et donc, je voulais un peu bousculer nos habitudes. Et donc, c'était une porte par là, que, je dirais même deux portes qui se sont croisées. Mon envie de saisir le silence et une sorte de réparation, certainement aussi. Et cette autre chose, quelque chose d'autre qui était bousculer les habitudes de nos rencontres.
Alors cet exercice de silence qui est proposé par le narrateur pour ces rendez-vous, il va donner lieu à des scènes et des réactions qui vont être très différentes selon les personnes qu'il va être amené à rencontrer, parce que évidemment l'absence de parole échangée, elle provoque une cassure avec le scénario classique d'une rencontre, et en particulier d'une rencontre qui se fait par les applications de rencontre. Pour toi, qu'est-ce que le silence il permet justement de casser ou de renouveler dans les attendus d'une rencontre classique?
Je dirais que la question que je me suis posée quand j'avais les applications de rencontre avant que je fasse cette expérience, mais je pense que chacun et chacune peut se la poser, quand on va rencontrer quelqu'un, est-ce qu'on n'a pas, par exemple, déjà un discours bien rodé de raconter « voilà, moi je travaille dans ce domaine-là, j'aime beaucoup, je n'aime pas ma chef, l'équipe, oui, ils sont sympas, mais je ne sors jamais avec eux ». Il y a une sorte de discours barrière, je dirais pas barrière, mais une boule de protection dans laquelle on se sent à l'aise, on se sent en sécurité aussi, mais finalement qui ne permet pas de rencontrer l'autre, puisque on s'enferme en fait. Ce discours, il nous enferme, je dirais. Alors que le silence, il brise tout ça, puisque moi, je me rappelle surtout les premières rencontres quand moi-même j'étais extrêmement déstabilisé. Mais en fait, on ne sait pas quoi faire. C'est vraiment pas dans nos habitudes, aussi bien. Déjà, avec les personnes qu'on connaît, passer 30 secondes de silence avec un ou une amie, c'est une catastrophe. On essaye de combler immédiatement, alors qu'avec une personne dont on connaît strictement rien, c'est pire encore. Vraiment, c'est d'une gêne absolue dans un premier temps. Et du coup, à force de chercher des moyens autres, on arrive à vraiment à se regarder dans les yeux, à mieux voir de quelle couleur sont les yeux de la personne. Alors que j'ai l'impression que quand on parle, c'est pas vraiment les choses qu'on remarque tout de suite. Évidemment, on imagine la personne telle qu'elle est, on la reconnaît, mais je ne pense pas qu'on pose notre regard assez précis sur comme je disais, la couleur des yeux, la courbe des sourcils, comment la personne tient son dos, quel est son sourire, est-ce qu'elle sourit assez naturellement, assez facilement, sont des choses qu'on ne remarque pas forcément. Alors que là, on n'a que ça, en fait, à offrir et qu'on nous offre. Et du coup, ça crée une certaine sorte de proximité sans qu'on l'attende, parce qu'on est vraiment, j'oserais dire, on est un peu dans la même mer tous les deux à ce moment-là, et il faut faire quelque chose. Et c'est comme, je ne sais pas, je ne connais pas l'expression, mais surtout en français, ça rapproche avoir le même ennemi. Et là, c'est un peu ça, le silence, dans un premier temps, c'est un peu un ennemi qui finalement nous rapproche.
Et justement, après ces premiers rendez-vous, par rapport à ce que tu viens de dénoncer, le narrateur se fait cette réflexion-là. Donc je te cite, je me demande si, avec la parole, nous serions parvenus à une telle vérité entre nous, du moins aussi rapidement. Le silence nous a permis d'être naïfs, fidèles à nos rêves. Les mots dressent souvent une barrière entre ce que nous disons et nos pensées embrouillées, pardon, notre timidité, notre prudence, notre désespoir. La spéculation sociale y est pour beaucoup, qui nous empêche d'être sincères et transparents. Mais le silence certainement domine les mots, il ne ment pas, fait se sentir heureux, respecte la plus grande force de chaque être, son profond désir. C'est Pina Bausch qui le dit. Donc là, la citation entière est de Pina Bausch, ou c'est uniquement ce dernier segment de paragraphe?
Non, c'est que le dernier segment, okay. sur le profond désir de l'être qui vient de Pina Bausch.
Parce que voilà, je trouve que là, je voulais citer ce passage parce que ça condense assez ce que tu as répondu juste avant. Mais alors justement, ça montre aussi qu'il y a vraiment il y a tous les aspects vertueux du silence que tu exposes ici. Mais toi, ton matériau, ça reste les mots, alors des mots écrits, donc qui ne sont pas forcément prononcés ou dits à haute voix, qui peuvent être lus dans la tête des gens. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, toi, tu es attaché à l'écriture et à l'expression verbale et aux mots? Même si il y a dans ton livre cette défense du silence et ce désir de silence.
Alors déjà, les mots sont arrivés a posteriori. Dans un premier temps, quand je vivais l'expérience, je dirais les expériences, il n'y avait pas de mots, en tout cas très très peu et très rarement. Donc quand je vivais l'expérience était tout à fait sincère, était complètement en silence. Les mots sont arrivés par la suite, mais aussi pour partager, pour donner l'envie aux autres personnes, parfois de refaire la même expérience, parce que j'ai eu des messages sur Insta après la sortie du livre pour me dire, voilà, j'ai testé, j'ai bien aimé, ou des gens qui m'ont dit, ah, j'ai testé, j'ai pas réussi. Donc il y a quelque chose, oui, pour dire qu'on peut se rencontrer, mais ça, c'est le discours assez facile de nos jours, qu'on s'en lasse des applications aujourd'hui, mais on s'en lasse justement, puisque c'est devenu... consommation de rencontres, comme je dis tout à l'heure, tout est pareil, tout est similaire, alors que ça permet de rajouter quelque chose de nouveau. Et donc les mots, c'est juste pour partager, pour attiser la curiosité, pour donner envie de ne pas s'engouffrer dans nos habitudes et de tester de nouvelles choses. Pas forcément dans les rencontres, mais juste oser quelque chose de nouveau.
Et alors, malgré tout, il y a cette nouveauté, c'est l'absence de mots qui est, voilà, qui est volontaire. Mais malgré tout, ce qui est commun à une rencontre d'application, en tout cas de la majorité d'entre elles, quand bien même elle serait faite avec un dialogue classique, c'est le côté éphémère qu'il peut y avoir à tout ça. Et là, en l'occurrence, le narrateur du livre assume volontairement que c'est éphémère, puisqu'il est acté avant même que le rendez-vous soit accepté, qu'on se quittera à la fin, quoi qu'il arrive, en s'étant parlé ou non. Donc ce côté éphémère, il est assumé, il est voulu par le narrateur. Qu'est-ce que ça change là aussi pour toi dans le contenu, les attendus de ces rencontres, de savoir que quoi qu'il arrive, on n'ira pas plus loin que la journée ou l'après-midi ou l'heure qu'on passera à deux?
Plusieurs choses, je dirais. Tout d'abord, une grande tristesse, un déchirement pour moi, puisque a posteriori, je me suis dit... Il y a des rencontres qui auraient pu aboutir à des relations potentiellement ou à quelque chose de beaucoup plus. Mais cette expérience aussi, à la base, ce n'était pas la règle. À la base, je pense, vu que je faisais l'expérience pour moi-même, et j'étais sincèrement persuadé que je trouverais mon amour ainsi. Et donc la règle était arrivée quand je me suis dit, je vais potentiellement en faire quelque chose, soit une exposition, soit un livre. Et donc à ce moment-là, oui, ça me déchirait le cœur. D'un autre côté, certes, les rencontres étaient éphémères, mais on m'a posé la question récemment, comment est-ce que j'en vois la rencontre? Qu'est-ce que c'est une rencontre? Pour moi, la rencontre, c'est l'envie de revoir la personne, parce que c'est pas parce qu'on croise une personne une fois dans la vie qu'on échange deux mots, mais la connexion ne se fait pas forcément. Pour moi, la rencontre, c'est l'envie de revoir la personne. Et là, je pense que quasiment toutes les rencontres ont abouti à ça, à l'envie potentiellement de revoir quelqu'un, tellement la connexion était forte. Donc, malgré leur côté éphémère, les rencontres ont eu lieu, j'oserais dire.
Pour aller un peu plus loin sur la manière dont t'as écrit ce livre-là, justement, le silence... Comment on le travaille quand on écrit un livre, comment on l'écrit, et est-ce que c'était... Parce que le fait d'écrire sur le silence, ça permet dans le livre d'éviter notamment les scènes de dialogue, il n'y a pas de scènes de dialogue formelles. Donc est-ce que le fait d'avoir choisi le sujet du silence, ça t'a amené à te rendre compte de contraintes quand t'écrivais, ou en fait ça... Il n'y avait pas tellement de difficultés formelles à tout ça, et ça s'est fait assez facilement malgré tout?
En quelque sorte, c'est une contrainte, certes, mais moi qui viens du théâtre, souvent la contrainte est assez propice pour la création. Donc là, pour le coup, elle n'était pas du tout contraignante, cette contrainte. Puisqu'il y a un champ, finalement, c'est inépuisable, à la limite, parce que chaque mouvement de l'œil, chaque penchement du corps, chaque réaction, évidemment, c'est des projections du narrateur qu'il fait, mais pourtant, il y a tellement de matière, finalement, qu'il y a de quoi faire, finalement. Et après, ça y va, ça continue, et ça peut provoquer une projection. Est-ce que la personne qui a soudainement fermé les coudes, est-ce que j'ai fait quelque chose de bizarre? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je dirais que c'est une matière assez inépuisable. Ensuite, j'ai appris, quand le livre a été sorti, par mon éditrice, que finalement... vu qu'en plus j'écris à la première personne, ça met le lecteur, la lectrice dans une sorte d'inconfort, puisqu'il y a une grande proximité de ce qui se passe. Il y a des choses, des situations parfois assez dérangeantes qui peuvent être, auxquelles on voudrait échapper. Mais vu que c'est à la première personne et avec une telle précision, je dirais. J'ai appris que oui, mon éditrice, à la première lecture, ça l'a un peu bousculé, je crois.
Et parmi les... Parce que justement, donc, t'évoques le théâtre, puisqu'effectivement, tu viens de l'univers du théâtre. Là, d'avoir choisi cette forme d'écriture-là, parce que ça aurait pu être un sujet qui serait fait en pièce. Alors, ça aurait été particulier d'avoir une mise en scène entièrement silencieuse et muette, mais de fait, ça existe. Qu'est-ce qui a fait que pour toi, cette forme-là du roman écrit seul était la forme idéale quoi, pour aborder ce sujet-là? Et je pense notamment au fait que, ça j'ai oublié de le dire, mais le narrateur dans le livre propose aussi, si la personne avec la personne du rendez-vous en est d'accord, de prendre une photo à un moment du rendez-vous. Donc là, avec une forme plus visuelle, donc je ne sais pas si tu la pratiques, mais pourquoi, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as privilégié le roman quoi, pour parler de tout ça?
Ça s'est fait assez naturellement par élimination, je dirais. Déjà pour parler du théâtre, vu que c'est tellement dans la précision, je pense qu'au théâtre, on ne verrait pas grand-chose, tout simplement, même en premier rang à 3 mètres de distance d'une belle scène, on ne verra rien. Le cinéma pourrait potentiellement le permettre avec les gros plans, les plans serrés. En revanche, moi, c'est pas mon domaine. Donc, les photos, oui, à la base, je voulais faire une exposition. Donc, je prenais les photos sur le coup. Et ensuite, quand je prenais les notes, quand j'écrivais, je me suis dit, moi, je me suis privé de la voix de Louis. Et j'étais curieux de voir qu'est-ce que ça ferait si je privais les gens d'un autre sens. Et donc, c'était pour le coup la vue. Et avec une amie, un jour, on a pris un appareil photo et on est allé dans un parc Tête d'Or à Lyon. Et on a demandé aux inconnus d'embrasser un ou une autre inconnue avec les yeux bandés, donc sans voir la personne avant. Et là, pareil, on a fait un très, très gros plan. On a zoomé pour voir toutes les crispations, parce que c'est bizarre d'embrasser quelqu'un sans voir qui c'est, sans connaître qui c'est, sans connaître le genre de la personne, sans connaître ni la taille, ni la sensation de sa peau. Ça faisait ça faisait beaucoup de choses, finalement. Et donc, je pensais juxtaposer les photos avec le texte. Ça ne donnait pas grand-chose, finalement. Et à force d'écrire, d'amplifier l'écriture, de la dramatiser de plus en plus, cette forme, je me suis dit, elle suffit largement pour raconter ce que j'ai envie de faire. Et donc tout ce qui serait autre venait juste parasiter. Voilà, en tout cas, il n'y avait pas d'amplification, il n'y avait pas de résonance autre que le texte pouvait déjà apporter en soi.
Et alors, c'est ce que tu dis là sur cette scène de rue, de photographie, en faisant cette proposition à des passants qui ne se connaissent pas, ça rejoint quand même aussi ton livre, dans la mesure où il y a plusieurs des rendez-vous qui se terminent par des relations sexuelles ou des baisers. Et là, ce qui est particulier, c'est que du coup, les gens s'adonnent à tout ça sans être passés par une conversation, disons, formelle. Et donc, ça crée quand même un premier contact physique qui est très particulier, et c'est ce que tu expliques. Pour toi, justement, est-ce que ce silence-là fait que quand la rencontre va jusqu'à ce contact physique, est-ce que finalement on connaît mieux la personne malgré tout? Enfin, entre le silence et la parole, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir le sentiment d'avoir vraiment rencontré quelqu'un, finalement? Parce que j'ai l'impression que ce que tu défends dans le livre, c'est que ces formes de rencontres silencieuses, elles sont finalement plus fortes, plus puissante, plus évocatrice qu'une conversation, quand bien même dans cette conversation on raconterait sa vie et tous ses problèmes psychologiques, familiaux, sentimentaux, etc.
Ce qui est particulier, c'est que, par exemple, les quelques fois où j'étais amené à faire l'amour avec la personne que je rencontrais, ça ne paraissait pas quelque chose d'extraordinaire, finalement. Ça découlait finalement du silence assez naturellement, puisque je dirais que le silence lui-même, c'est déjà une sorte de contact physique. Tellement, comme je disais tout à l'heure, la citation que tu as faite, les mots mettent une barrière. Donc évidemment, s'il n'y a pas de barrière, on se sent tellement proche que le silence, si vraiment la connexion se fait, si on arrive à se regarder pendant une heure dans les yeux, c'est déjà un contact physique. C'est un des pires contacts physiques, finalement, de se regarder dans les yeux pendant longtemps. Donc, Donc oui, je ne sais pas si ça apporte quelque chose de plus de faire l'amour en silence, mais ça en découle tout à fait naturellement. Alors qu'avec la parole, évidemment, ça peut en découler aussi, mais c'est comme si c'était une autre étape, puisque souvent des gens font l'amour souvent en silence, on ne parle pas beaucoup, ça m'étonnerait. Ça se peut. Mais voilà, c'est une autre étape. Du coup, on franchit la barrière, on arrive au contact physique. Du coup, avec le silence, on est au même stade, au même niveau, mais avant.
Là, on parle beaucoup de sens depuis tout à l'heure, le toucher, la vue, l'odorat, évidemment, dans des relations charnelles qui est omniprésent. Pour toi, le matériau de l'écriture, ça fait appel à quel sens en particulier? Qu'est-ce que, de manière un peu sensorielle comme ça, qu'est-ce qui dans l'écriture et dans la lecture, qu'est-ce que ça provoque chez toi, l'écriture en termes de sens, justement?
Ben finalement, je dirais que c'est très très tactile, l'écriture. Déjà, quand j'écrivais, quand j'amplifiais le texte après les rencontres, donc quand je décrivais assez précisément les sensations, bah, je les revivais finalement. Je savais précisément comment le contact était fait, donc je le ressentais. Parfois même, j'avais la chair de poule qui réapparaissait juste par le souvenir, par le fait de poser des mots dessus. Et oui, là, je travaille sur un autre roman que je viens d'achever. Et pareil, le fait d'écrire, là, pour le coup, ça sera de la fiction pure et simple, le fait d'écrire des situations, l'écriture les fait vivre, finalement. Et on peut être triste en décrivant quelque chose qui se passe mal, par exemple. Donc, c'est vraiment très, très tactile comme exploration, comme manière de... Je ne sais pas comment dire, comment on dit l'écriture, comme geste, voilà.
Alors, on le sent bien, il y a cette part tactile, cette part charnelle, corporelle, qui est extrêmement importante. Il y a une dimension aussi qui n'est pas anodine dans le livre, c'est la dimension, disons, spirituelle, que tu associes au silence, qui est un peu en filigrane du livre et qui, à un moment, se marque particulièrement dans un chapitre où le narrateur, après tout un tas de rendez-vous, décide d'aller se confronter à son propre silence. Donc, il va au large de Cannes sur une île magnifique qui s'appelle l'île de Saint-Honorat, sur laquelle réside une communauté religieuse qui accueille librement les personnes qui voudraient pendant plusieurs jours faire vœu de silence et donc qui peuvent être logées et faire une retraite spirituelle volontaire, avec la règle de ne pas s'adresser verbalement aux autres personnes du lieu saint. Or, cette présence du religieux, du sacré dans le livre, elle peut, comme ça, de prime abord, paraître un peu contradictoire avec, grossièrement, les applications de rencontres. Pourquoi est-ce que tu as quand même voulu faire une place à ça dans le livre, et en particulier le marquer très concrètement avec ce chapitre sur l'île de Saint-Honorat?
Moi, qui ne suis pas du tout religieux, qui même me pose des questions, comment est-ce qu'on puisse être religieux. C'est vrai que c'est assez curieux. Mais à la base, je voulais juste faire cette expérience pour moi-même. Et une des rares occasions dans lesquelles on peut faire une retraite de silence, c'est justement dans les abbayes, dans les centres religieux. Donc je suis parti. Et cette dimension... religieuse en quelque sorte. Donc moi qui essaie de comprendre pourquoi est-ce que les gens sont religieux et pourquoi est-ce que les gens croient à quelque chose autre, c'est finalement du coup c'est plonger en soi et peut-être ne pas vouloir chercher les questions par soi-même, mais piocher dans les réponses déjà faites. Mais en tout cas, il y avait une grande plongée en soi-même, de comprendre les mécanismes, les ressentiments et... Et à ce moment-là, oui, le silence correspond à quelque chose, surtout que quand on est seul pendant une semaine à ne rien se dire, on ne fait que ça, on rumine, on se pose des questions, on revit un peu les situations, on se demande pourquoi et comment, et surtout le futur. Je pense que quand on est seul en silence, on se pose beaucoup la question sur qu'est-ce qui nous attend dans le futur, et je suppose que dans la religion, c'est assez, assez proche.
Et alors ce titre, Ruslan, enfin silence, je l'ai dit en introduction, mais moi je trouve qu'il, dans le prolongement de tout ce que tu viens de dire, il tient un peu lieu de prière, quelque part, et aussi d'un vœu. C'est une espèce de, à la fois il y a quelque chose de performatif et en même temps de souhait que ce silence-là arrive enfin. Qu'est-ce qu'il y a pour toi de transgressif aujourd'hui et de mobilisateur dans l'aspiration au silence? Qu'est-ce qui te paraît si important avec le silence aujourd'hui? Pourquoi ça peut être quelque chose de désirable, de pas triste, de pas déprimant, de pas angoissant? Voilà, cette expérience-là sur cette île seule, est-ce que tu la recommanderais à n'importe qui, une fois dans sa vie, de vivre ce sentiment-là, d'être confronté à soi-même et à cette espèce de béance-là?
Ah oui, je recommanderais volontiers. Je pense que c'est assez, je dirais même, important de retrouver notre propre silence, parce que c'est la société qui a fait que le silence est devenu gênant. En soi, le silence est quelque chose qui est propre à l'humain et tout à fait naturel. Donc, sauf qu'aujourd'hui, on est dans une fuite permanente du silence avec la surreprésentation des communications, des médias. On est toujours surstimulé par de tous côtés. Donc, le silence, c'est là où on peut se retrouver un peu notre sincérité, comment on est finalement. Puisque là, pour le coup, on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas dire quelque chose parce qu'on a prévu de le dire avec le silence. On est comme ça, on n'y peut rien. À part si on est comédien, comédienne, bien sûr, là, on peut tricher, mais on ne peut pas tricher pendant très très longtemps. C'est vraiment la sincérité et des sentiments, des sens de soi-même, de tout, je dirais. C'est très simple, mais c'est tellement beau, le silence.
Je fais exprès d'en instaurer un très léger, même si les silences à la radio ne sont pas toujours évidents. Mais voilà, j'ai laissé 2-3 petites secondes de suspension. Merci beaucoup, Ruslan, d'avoir été avec nous.
Merci, Lucas.
Je rappelle donc que ton premier roman, Enfin, Silence, est disponible en librairie. Je ne peux que recommander à toutes les personnes qui nous écoutent de le lire. C'est aux éditions Les Pérégrines, que je connais, que je salue donc chaleureusement ici. Quant à nous, chères chouquettes du monde entier, on se retrouve bientôt pour de nouvelles réjouissances littéraires. D'ici là, bonne lecture.